préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, where you fellows get played at the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 22 octobre. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors ce soir, on va parler de la ville de Lyon qui ferme la rue aux prostituées de Gerland.
Épidémie de phobie administrative chez les parlementaires.
Ensuite, on va parler du grand plan de Karenko pour le plan froid.
Et puis on aura Laurent Delabouze avec nous.
Ouais.
Le grand retour de Laurent Delabouze au Canu Info du mercredi.
Waouh, waouh.
Ensuite, on ira faire un tour au Mexique où un militant est descendu en direct à la radio.
Nouveau braquage à la Tony Musulin, c'est chez Loomis.
Ensuite, on passera à la rubrique Il faut que ça se sache.
Et puis voilà, puis un petit agenda et toutes ces choses-là.
Alors, eh ben, ça se passe quasiment en direct en ce moment. Une triple fusillade a eu lieu au Canada, dans le centre-ville d'Ottawa. Alors, cette fusillade a eu lieu à trois endroits différents dans la ville. Et de manière simultanée. Alors une s'est passée dans le centre commercial, une autre près d'un monument, et quand même la plus impressionnante a eu lieu dans le Parlement canadien, ouais c'est ça, où se trouvait le Premier ministre qui est, nous rassure les médias, sain et sauf. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'un des auteurs de la fusillade a été abattu par la police. Les autres sont forcément activement recherchés. Tout le centre-ville d'Ottawa est bouclé. Et quand même, pour l'ironie de l'histoire, mardi, le gouvernement canadien avait monté le niveau d'alerte antiterroriste de faible à moyen. Parce qu'il y avait un type qui a renversé, a priori... Enfin, il a fait exprès de renverser un militaire et il est décrit dans les médias comme se revendiquant djihadiste. Du coup, là, les soupçons, vu l'ambiance actuelle, se portent bien sûr sur l'État islamique.
Mais à part le Premier ministre qui est sain et sauf, on sait s'il y a d'autres gens qui...
Il y a alors la fusillade qui a eu lieu auprès du monument. Il y a un flic qui a été blessé. Parce qu'a priori, juste c'était la seule cible, quoi. Et pour l'instant, non, il n'y a pas de bilan. Ça, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de morts.
Il semblerait quand même qu'il y a un pauvre Troufion qui était blessé au Parlement et qui serait peut-être même mort.
Oui, qui a été abattu, il me semble, devant le Parlement.
Et c'est pas l'auteur de la fusillade, c'est un autre gars.
Oui, non, c'est
okay.
Un garde.
Voilà, actu à chaud.
Alors, on enchaîne direct sur l'évolution sémantique du mot progressiste. Ça s'est passé aujourd'hui. Manuel Valls propose dans un entretien au Nouvel Obs qui a été publié aujourd'hui, ou en tout cas dont des extraits ont été publiés aujourd'hui, de, ouvrez les guillemets, bâtir une maison commune de toutes les forces progressistes sous la forme d'une fédération ou d'un parti commun face à la menace d'une droite dure et même d'une extrême droite qui progresse. Donc elle aussi, elle progresse. Donc c'est bien ça quand on parle de progresser, de progressiste. Non, en fait, l'évolution, c'est pas exactement ça. Dans cet entretien apparaître, dont l'intégralité est apparaître, mais dont les extraits ont été publiés sur le site internet du Nouvel Obs aujourd'hui, Manuel Valls se dit également, pourquoi pas, favorable à un changement de nom du Parti Socialiste, une idée qu'il avait portée en 2007 et en 2011 et qui avait suscité d'importants remous dans le parti. Donc voilà, jusqu'alors, on pensait que le mot progressiste voulait dire en gros de gauche, du côté des pauvres, quoi. Et bon, on avait déjà eu des petites occasions de remarquer que peut-être c'était pas tout à fait ça, mais on n'avait pas fait très attention. Là, cette fois-ci, c'est clair. Les progressistes, avec cette déclaration un peu choc de Manuel Valls, ça veut dire être progressiste, c'est être la gauche, celle qui est du côté des patrons et qui s'oppose aux rétrogrades. Les rétrogrades, c'est ceux qui croient encore dans la lutte des classes, la justice sociale ou tous ces vieux machins. Et par exemple, les gens qui croient au socialisme, puisque même le nom de Parti Socialiste, qui en avait déjà plus que le nom depuis bien, bien, bien longtemps, même ça, il semblerait que on essaye de l'évacuer. Donc voilà, à noter, principalement, c'est principalement intéressant au niveau de l'évolution du vocabulaire français. Le mot progressiste, quand on parle de politique, ne veut plus dire de gauche, mais bel et bien ultra-capitaliste.
Et une dernière brève, c'est l'installation la semaine dernière d'une œuvre d'art à Paris de l'artiste américain Paul McCarthy, c'était Place Vendôme, et elle a été saccagée et l'artiste agressé. Donc pourquoi ? Parce que c'était un arbre de Noël qui a été installé et qui était volontairement provocateur, cet arbre de Noël. L'œuvre s'appelle Tree et qui fait volontiers penser à un plug anal vert. Vous imaginez un plug anal géant vert installé à proximité d'un des monuments classiques les plus phalliques de Paris. Et donc, le printemps français, le mouvement identitaire et catholique intégriste, n'a fait ni une ni deux et dénonçait un plug anal géant de 24 mètres de haut qui défigurait la place Vendôme et humiliait Paris.
Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que là, Google, il propose un outil qui aide, si vous tapez un mot dans cet outil-là, vous voyez le nombre de gens qui ont fait la même recherche avec ce mot-là. Et du coup, c'est en forme de petit graphique. Et si vous tapez plug anal dans cet outil Google, et ben, on voit que du coup, plein de gens se sont mis à essayer de comprendre ce que c'était qu'un plug anal, parce que du coup, il y a la courbe monte en flèche, comme ça, les recherches sont à peu près quadruplé ou sont multipliés par 10, je sais plus, mais du coup c'est assez rigolo.
Donc un plug anal est un objet qu'on met dans son cul afin de prendre plein de plaisir.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Eh oui, c'est nous les non grévistes. Ah pardon, et je croyais que ça allait être à moi de parler, mais pas du tout,
non.
Je me suis trompé.
Et non, la ville de Lyon ferme la rue aux prostituées de Gerland. Après l'interdiction de stationner destinée aux camionnettes dans le quartier de Gerland, un arrêté municipal leur interdit maintenant totalement la circulation dans une zone d'activité dédiée donc aux entreprises de biotechnologie. Ça, c'est une première nationale. Il y a des barrières qui entravent les rues et des panneaux sans interdit. L'automobiliste du soir ou du week-end en sortant du périphérique direction Gerland doit se demander pourquoi la première zone d'activité qu'il trouve sur sa route est visiblement fermée à la circulation. Donc, en toute discrétion, la mairie de Lyon a signé il y a un mois un texte qui interdit la circulation des, je cite, véhicules équipés pour le séjour ou une activité. Donc, bien sûr, c'est ciblé sur les prostituées, et les camionnettes de prostituées sont ainsi totalement interdites dans le parc d'activité Ampère Tessu. Comment on dit ? Texu, je pense. Texu, ouais, c'est plus sexy. Et donc, elles sont interdites de 19h30 à 5h du matin en semaine et 24h sur 24 le week-end. L'interdiction est bien évidemment limitée dans le temps. Elle a été prise pour une durée de 3 mois. À compter du 18 septembre. Et bien sûr, pourquoi ces 3 mois ? C'est pour que Gérard Collomb soit dans toute la légalité, parce que je crois bien qu'il aimerait pouvoir la mettre en place indéfiniment, mais la loi française ne le permet pas. Donc sur les 3 rues, une est totalement fermée, les autres sont toutes gardées par un vigile de chez Bibelot. Et dès que ces vigiles voient une camionnette, ils appellent systématiquement la police. La ville de Lyon n'a pas pris la peine d'afficher l'arrêté. Donc, pour rappel, depuis 2001, c'est le 8e arrêté municipal anti-prostitution pris par la mairie de Lyon. C'est la première fois qu'un arrêté va jusqu'à interdire la simple circulation des camionnettes dans les rues. Et pourquoi la mairie a-t-elle pris une telle mesure coercitive alors que le nombre de camionnettes est en déclin? Et oui, parce que de 2008 à aujourd'hui, sur l'ensemble du quartier de Gerland, les camionnettes sont passées d'environ 130 à 70, entre 70 et 90 par jour. Voilà. Donc la justification donnée par la mairie est à double détente. Donc il y a celle officielle donnée en direction du préfet qui contrôle la légalité des actes et pour que la préfecture et la mairie entretiennent des bons rapports. Donc on peut ainsi dire je cite, stationnement irrégulier et concentré sur les voies de desserte de la ZAC en perte. Sud présente un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qui justifie une aggravation de l'arrêté du 30 septembre 2011 qui interdisait seulement le stationnement. Donc voilà, sécurité, salubrité, protection du site. Si les interventions des polices municipales et nationales sont régulières sur le quartier, l'activité policière a connu un pic du printemps à l'automne 2014, avec notamment des bouclages temporaires de la zone par les forces de l'ordre, et c'était aussi également une première en 2014. Depuis quelques mois, la pression sur les prostituées s'était légèrement relâchée, mais certaines ont définitivement quitté Lyon sous la pression. Et d'autres sont revenus poser leur camionnette jusqu'à cette nouvelle arrêté. Et selon l'adjoint PS à la sécurité Jean-Yves Sécheresse, l'emploi est la raison de cet arrêté. Donc deuxième discours. Il faut rendre suffisamment attractive la zone pour que des entreprises s'y installent. On le fait pour le développement économique de Lyon. Parce que oui, cette zone, c'est pas une zone résidentielle, c'est une zone d'entreprise.
Donc, en tout cas, il faudrait pas que ce soit des entreprises qui aient besoin de camionnettes pour travailler.
Ouais. Maintenant, c'est de 19h30 à 5h l'arrêté. Ah ouais. Donc ça. Et donc, le maire dit sécurité pour entretenir des bons rapports avec le préfet et l'adjoint PS dit développement économique. Et cet adjoint au maire a donné rendez-vous dans 3 mois pour voir si les camionnettes se sont évaporées. Donc ça, c'est évaporé, le signe qui, le mot qu'il a utilisé. Et quand donc c'est des journalistes de Rue 89 qui l'ont interviewé. Et donc il a dit, mais il a évoqué ce qui s'est passé sur la place de la Guillotière cet été, où ils ont mis en place un faux chantier pour virer les Roms. Et donc il a dit, ben vous voyez, on a mis en place ce truc-là et ça n'a pas marché. Donc ça se trouve, suite aux 3 mois de cet arrêté, ça ne marchera pas et on ne le renouvellera pas. Vous voyez, il abuse un peu dans les coins. Et un mois après le début de l'expérience, on peut déjà noter un déplacement vers d'autres rues et d'autres zones industrielles de Gerland. Des filles qui exercent en camionnette, mais également à pied. Donc on le sait bien, ces arrêtés n'arrêtent pas la prostitution, mais ne font que la déplacer. Des décrets anti-putes également à Lille. Donc depuis le 15 octobre et pour 3 mois également, à Lille, il est, du moins dans une petite commune jouxtant Lille, il est interdit par arrêté municipal de se balader dans une tenue indécente. C'est dans le quartier de Pré-Catelan et de la Madeleine. Donc grâce au changement de la majorité de la commune urbaine de Lille, le maire avait obtenu la suppression des 2 abris d'arrêt de bus de la rue de Pré-Catelan parce que les prostituées les utilisaient. Mais voilà, 2 mois plus tard, il y a toujours des prostituées dans ce quartier, souvent des mineurs roms, qui sont d'ailleurs toujours aussi nombreuses à faire le tapin dans ce quartier. Certes, elles ne sont plus sous les abris qui ont été supprimés et elles se sont déplacées vers le rond-point et après le pont, non loin de là. Donc le maire considère qu'il faut faire plus et il a pris un arrêté le 15 octobre, considérant que le fait de circuler dans une tenue indécente constitue un risque d'atteinte à la tranquillité publique. Voilà, il est donc interdit, je cite, de se trouver sur la voie publique dans une tenue indécente et pour une période de 3 mois. Donc ça, ça s'applique aux rues d'Ostende, de la salle des promenades, du tissage, du parc de Constantine, l'avenue de Churchill et le quai de Halage. L'arrêt est circoncis dans l'espace et dans le temps, donc afin de ne pas se faire rétroquer juridiquement. Il peut néanmoins faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois devant le tribunal administratif de Lille, parce que, effectivement, il reste à évaluer ce qui est indécent.
Et oui, c'était dans le Canard aujourd'hui. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a sans doute une 60aine de parlementaires qui ont des soucis d'une manière ou d'une autre avec le fisc. D'une manière ou d'une autre, ça veut dire, d'après le Canard enchaîné, que ça va du petit différend au gros désaccord. Il serait donc 60. Et le Canard affirme que, ouvrez les guillemets, la Direction Générale des Finances Publiques procède actuellement à plusieurs recoupements en s'appuyant sur les déclarations de patrimoine qui sont obligatoires depuis pas si longtemps là, des 925 députés et sénateurs. La liste des personnes inquiétées n'est pas encore publique et du coup elle est même pas encore dans les mains de l'Élysée ou de Matignon. Mais le ministère des Finances redouterait, toujours selon le Canard, une sacrée bombinette qui explosera sous peu. La liste devrait être connue d'ici la fin de l'année. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucune femme dedans. Les fraudes peuvent aller du simple litige avec les impôts à la tricherie volontaire. Les parlementaires suspectés de fraude, qui seraient actuellement contactés par les services fiscaux, devraient pouvoir se mettre en règle avec la loi. Pour certains, l'affaire pourrait donc se dégonfler pour une bonne partie d'entre eux. Mais quand même, une grosse poignée, d'après les termes du Canard, pourrait rester inquiétée après qu'on ait fait ce qu'on pouvait pour les sauver. Alors voilà, on peut juste imaginer qu'à l'heure où je vous parle, vu que l'info date de ce matin, il doit y en avoir un certain nombre qui sont en train de relire les déclarations qu'ils ont faites au moment de l'affaire Thévenoud. Et de se dire, oups, là, peut-être que j'aurais dû être moins méchant avec le collègue. Et quant à moi qui ai aussi un petit souci de phobie administrative, c'est rare que qui que ce soit essaie de me sauver, hein, mais... Bon, en même temps, c'est vrai que Thévenoud, il n'avait pas été tellement sauvé, il avait été un peu enterré. Mais donc voilà, ils vont peut-être être quelques-uns là, à essayer de se sauver collectivement les uns les autres, cette fois-ci, plutôt que de se taper sur la gueule.
Bienvenue, la plus rebelle des radios. Oh, your call is a diamond fella. Oh, you little ways of a comedy of errors. You fellow, your fellows get
played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Alors, Karenko, hein, notre cher préfet, a fait une méga conférence de presse, comme chaque année, pour expliquer comment allait se passer le plan froid pour les SDF cet hiver. Alors, la conférence avait 3 points principaux, les demandeurs d'asile, les sans-papiers et les Roms. Alors, on va commencer avec les Roms. Vous allez voir, ses conseillers ont dû se casser la tête pour trouver une phrase qui fasse plaisir du PS à l'extrême droite. Alors, il a déclaré, je cite...
En gros, une phrase ultra. Okay. Du PS à l'extrême droite.
Ouais, c'est ça. Les campements qui se comportent bien, c'est-à-dire ceux où il n'y a pas de foyer de délinquance et pas de problème de voisinage, ils restent. Dès lors que j'ai des plaintes ou une mise en danger, comme dans le cas de la chaufferie de l'hôpital femme-mère-enfant, je prends mes responsabilités et je vais évacuer. Alors,
bah, c'est clair.
Ce qu'il faut donc comprendre, c'est les bidonvilles ou les Roms ne vont pas aller faire la manche, ni fouiller dans les poubelles, ou le voisinage écrirait plein de lettres au préfet pour dire qu'il trouve ça cool qu'il y ait plein de Roms à côté de chez eux, et que les pacabanes respectent les normes de construction en vigueur, c'est-à-dire NFC 1500 pour l'électricité et la norme RT 2012 pour l'isolation. Donc, si ces 3 conditions, et seulement et si ces 3 conditions sont respectées, alors, monsieur le préfet se montrera clément face à ces bidonvilles et les expulsera seulement à la fin de la trêve hivernale. Mais bon, vu les conditions d'attribution des bonnes grâces du préfet, autant vous dire que l'hiver va être rude pour les Roms. Deuxième point, le squat de demandeurs d'asile à Gerland. Parce que quand il parle des demandeurs d'asile, il parle juste de ça. Alors, un petit résumé. Depuis l'automne 2013, des familles se sont installées dans cet immeuble vide à Gerland appartenant à l'armée. C'est courageux de leur part. Ces familles sont celles qui n'ont pas été relogées à Oulin à la suite de l'expulsion du pont Kitchener l'année dernière, tout le monde s'en souvient. Comme ces familles sont en demande d'asile, le préfet a l'obligation de les héberger et il reconnaît lui-même que il dit lui-même que ces familles ont un droit très fort à l'hébergement. Oui, donc il sous-entend que lui, il est très fortement dans l'illégalité pour ne pas les héberger. Mais comme il l'avait déjà dit il y a quelques mois, et là je cite, si je les déloge, il faudra que je les reloge. Il est malin. Donc on va attendre que leur démarche de demande d'asile aboutisse ou non, parce que là, jusqu'à maintenant, il ne me coûte rien. Malin, sous-entendu, hein, il n'a plus qu'à attendre que leur demande d'asile soit rejetée. Ensuite, on vire tout le monde d'un squat en direction du centre de rétention. Coût de l'opération, 0 euro. Troisième point pour les sans-papiers. Bon, bah là, il s'embarrasse pas. Les sans-papiers, là, pour lui, c'est simple. Ils n'ont pas, je cite, vocation à être hébergés. Ils ont vocation à être mis à l'abri et renvoyés dans leur pays. Et là, vous comprendrez
pas. Mis à l'abri,
comprenez, centre de rétention. Au moins, là, c'est clair. Bon, et ben pour conclure hein, sa conférence, il a parlé du nombre de places. Alors en introduction, il a rappelé que ce qui est important, c'est le dur équilibre entre pas de mort et non-attractivité. En gros, l'objectif cette année pour le Prends Foi, c'est pas de mort dans la rue parce que les gens quand même, ils aiment pas ça, mais continuer quand même à les traiter comme des chiens pour que d'autres ne se ramènent pas en disant que Lyon quand même c'est cool et qu'il s'occupe correctement des SDF l'hiver. Concernant le nombre de places, il y aura 841 places cette année contre 800 l'année dernière. Bon, 41 places en plus, autant dire que c'est rien. Avec comme particularité cette année une très grosse proportion de places en chambre d'hôtel. Ce qui est à peu près tout ce que les associations dénoncent depuis des années et des années, car ça coûte extrêmement cher aux contribuables, comme on dit. Et en plus de ça, c'est quasiment impossible de faire un travail d'accompagnement social pour ensuite réinsérer les gens dans un truc un peu
plus... Et qui plus est, dans les chambres d'hôtel, c'est à peu près impossible de se faire à manger. Et du coup, pour les gens, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant chambre d'hôtel, c'est pas exactement la solution la plus confortable possible.
Oui, c'est ça. Puis attention, hein, que je parle chambre d'hôtel, c'est pas le Sofitel qu'il y a sur les quais. Hein. C'est quand même les petits hôtels un peu tout pourris. Donc voilà. À quoi s'attendre pour cet hiver?
Attention, vous êtes prêts?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent de la Beuse.
Bonsoir. Alors, face à la morosité ambiante, au monde ravagé par les guerres, je tenais à vous annoncer ici la bonne nouvelle du jour. Bon, même si elle date d'hier, vous le savez tous. Le PDG de Total, Christophe de Margerie, est mort. Son jet privé s'est crashé au décollage après avoir heurté un engin de déneigement qui se trouvait sur la piste d'un petit aéroport russe. En voilà au moins un qui n'aura pas eu le temps de déplier son parachute doré. Hein. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde entier, les amis proches de ce patron intègre sont effondrés, accablés par une tristesse infinie. Citons-en quelques-uns, des plus intimes. Charles Pasqua, Vladimir Poutine, le chef de la junte militaire birmane, Saddam Hussein, qui doit le pleurer de là-haut, et Manuel Valls. Ah, et j'oubliais son autre ami qui est aussi au gouvernement, là, l'ancien banquier des Rothschild, là, celui qui a remplacé Montebourg, le petit tétron, le petit Macron, Emmanuel Macron. Donc Manuel Valls s'est empressé de déclarer, avec des trémolos dans la voix, que la France avait perdu un grand homme et que tous les salariés de Total étaient désormais orphelins. C'est sûrement sa longue expérience dans les milieux ouvriers de la lutte des classes qui lui a permis cette brillante analyse de l'état d'esprit des employés de Total. Quant à moi, je vois plutôt les ouvriers des raffineries lever ce soir des grands verres de vodka en gueulant « Nazdrovia !» rendant hommage à l'ultime sursaut du prolétariat russe qui conduit et bourré les déneigeuses sur les pistes des aéroports. « Nazdrovia !» Cependant, comme il reste toujours au Parti Socialiste, un ou deux clampins qui ne vivent pas avec leur temps et qui se rappellent peut-être des multiples affaires qui ont éclaboussé Total lorsque de Margerie en était le PDG, bon, sans trop s'étaler, contrairement à la marée noire de l'Erika sur les plages bretonnes, on se rappelle d'AZF, aussi sécurisé que le bateau précédemment cité, dont la coque avait été colmatée avec du chewing-gum. On se rappelle aussi de l'argent reversé à Christophe de Margerie par Saddam Hussein dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture, et du bon boulot effectué pour Total par les esclaves birmans. Se rappelant peut-être de cela, et ayant oublié la position de son parti dans l'échiquier politique, Gérard Filoche, ponte du Parti Socialiste, déclarait hier sur Twitter « Peut-être le successeur volera-t-il moins ?» En même temps, ça risque d'être plutôt difficile, hein, sachant que l'avion a à peine fait 100 mètres. Avant comme une merde. Toujours est-il que cela a immédiatement fait hurler la droite qui a sommé Manuel Valls de virer Gérard Filoche, qui, par l'intermédiaire d'un de ses députés, a trouvé les mots parfaits pour toucher Manuel Valls et le pousser à virer l'autre salaud. Sinon, vous serez à jamais estampillé, je déteste les chefs d'entreprise. Bon, affaire à suivre, mais à mon avis, le Filoche, il va pas tarder à filer. Sans transition, c'est pour me la péter un peu Journal Télé, là. Passons maintenant à l'affaire Balkany. Hier, on a appris une nouvelle mise en examen du couple Patrick et Isabelle Balkany. Encore plus fort que Jacques Médecin ou les époux Tibéri, les Tony Muselin de l'UMP, l'intelligence en moins, reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, et sa femme Isabelle Balkany sont accusés cette fois de blanchiment d'argent, fraude et évasion fiscale par des sociétés offshore, sociétés écrans, possiblement montées par un cabinet d'avocats dont le nom n'est autre que Claude et Sarkozy associés. Les enquêteurs trouvent par exemple plutôt étonnant, entre autres, que dans la même déclaration de revenus, Balkany affirme qu'il touche 90 000 euros par an et en verse 127 000 à son personnel de maison. Et parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, je vous propose un petit retour sur la vie des époux Balkany, dont le CV et le toupet pourraient faire pâlir de jalousie un Mesrine ou un Spaggiari. Ces petits démêlés avec la justice d'abord. Ça commence en 95, alors qu'il est maire de Levallois-Perret depuis 10 ans déjà. On se rend compte que le travail à plein temps d'au moins 33 employés municipaux était de s'occuper exclusivement de son appartement et de sa résidence secondaire. Il est condamné à rembourser leur salaire à la mairie. Parallèlement, ayant une autre résidence dans les Caraïbes, il trouve un petit boulot de gérant de la publicité pour la radio Géry Caraïbes Productions. Celle-ci porte plainte, car il se faisait passer pour le directeur. Et puis, n'ayant jamais payé l'impôt sur la fortune, les Balkany profitent de la présidence de leur ami Sarkozy pour continuer à remplir leurs poches. Patrick Balkany aurait notamment touché des petites commissions sur des ventes de sociétés d'uranium en Afrique. Ça, on parle de quelques millions. Maintenant que les parlementaires doivent déclarer leur patrimoine, Patrick Balkany, qui ne s'éloigne jamais de plus d'un mètre de sa complice, de sa compagne, on pourrait dire même sa femme puisqu'ils sont mariés, et qu'elle est propriétaire de toute leur résidence secondaire, il inscrit donc pour sa déclaration de patrimoine, à la case « Identification du conjoint », il inscrit la mention « Néant ». Sa femme, Isabelle Balkany, en profite donc pour se faire rembourser par le fisc 6 000 euros en tant que personne isolée.
Ok, j'ai mis de pognon, écoute la leçon.
Ensuite, emportés dans leur élan, ils demandent un recours gracieux pour la somme d'argent qu'ils doivent encore à la mairie de Levallois. Malheureusement, comme il y a toujours quelques petites ornières sur la route des Balkany, ils sont accusés en 2013 d'avoir utilisé encore les services de 3 policiers municipaux à leur usage personnel. Mais ces quelques difficultés n'empêchent pas M. Balkany de mener de front une brillante carrière politique. Maire de Levallois-Perret depuis 1985, les petites casseroles qu'il traîne ne l'empêchent pas de se représenter aux élections municipales en 2001, et là, il gagne. Cependant, puisqu'on vient toujours lui chercher des noises, le préfet saisit le tribunal administratif pour contester son élection. Balkany était inéligible. Après des tas de recours en justice, le tribunal administratif finit par annuler l'élection, donc en juillet 2002. En conséquence, une nouvelle élection est organisée en septembre 2002. Le temps ayant passé, Balkany est de nouveau éligible et se représente à cette élection. Et là, il gagne, mais plus, avec plus de voix. Ah, c'est beau la démocratie. Maire de la commune la plus endettée de France, dont la gestion hallucine la Chambre régionale des comptes sur les dépenses festives et la gestion des véhicules de fonction. Il est encore maire aujourd'hui puisqu'il a été réélu aux deux élections suivantes. Ça, ça va donner de l'espoir à Sarkozy, ça. En conclusion, et je n'invente rien, je vous invite à lire l'excellent ouvrage de Patrick Balkany lui-même, qui a pour titre, deux points, ouvrez les guillemets, une autre vérité, la mienne.
That's what you call a Jewish. what you like. Yeah, much you do about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am.
Bah on arrête de rigoler là parce que c'est pas rigolo. Il s'appelait Attilano Roman, c'était le leader d'un mouvement de personnes déplacées par la construction d'un barrage dans l'état de Sinaloa, c'est au Mexique. Et bah, il a été tué samedi par balle alors qu'il était en direct en train de présenter son émission de radio. Et voilà, c'est une émission qui était diffusée tous les samedis depuis un an. Attilano y critiquait régulièrement l'attitude du gouvernement, détaillait les revendications de son mouvement, qui vise à obtenir des indemnisations pour les personnes qui ont été virées pour construire le barrage Picachos. Les assassins sont rentrés dans les locaux de la radio, se sont immédiatement dirigés vers la cabine, ils savaient qui ils cherchaient. Ils ont tiré 3 fois et puis ils se sont barrés. Bon, au Mexique... Disons que c'est pas très très souvent qu'on finit par arrêter les gens qui assassinent des militants, alors voilà. Henry the Fourth, on fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as the winter's tail. Titus and Jonicus was bound to fail.
Alors, vous vous rappelez sans doute de la société de transport de fonds Loomis, celle où Tony Musulin s'est barré avec le camion rempli de 11,6 millions d'euros et où encore aujourd'hui 2,5 millions n'ont toujours pas été retrouvés. Eh bien, rebelote pour la même société, une employée de Loomis a volé 250 000 euros à la société. Bon, c'est un peu moins quand même. Mais ce qui est quand même pas mal dans cette histoire, c'est que le vol a été commis le 11 octobre dernier, mais que la direction ne s'en serait rendu compte que quelques jours plus tard. Et du coup, depuis le jour du vol, plus personne n'avait de nouvelles de l'employé et de son mec. Ils avaient décidé de se barrer en Turquie. Alors tout aurait dû se passer comme sur des roulettes, sauf qu'ils se sont fait pincer à la frontière turque le 13 octobre par un simple contrôle de routine. Et puisqu'il y a...
Merde.
Oui. Et puisqu'en plus à ce moment-là, personne en France ne s'était encore rendu compte du vol, il n'était donc pas du tout recherché. Les douaniers ont juste trouvé louche qu'un couple se balade avec 245 000 euros en liquide planqués dans leurs sous-vêtements.
Mais pourquoi ils les ont planqués? S'ils les avaient mis dans une valise, ils seraient passés inaperçus.
Peut-être.
Oui, mais il faut les déclarer.
C'est ça, après ils prennent des taxes et tout. Ouais. Bon, ils ont quand même été relâché le jour même sous contrôle judiciaire avec une simple convocation devant un tribunal turc sur le moment pour se justifier d'où viennent ces 245 000 euros et pour non-déclaration, j'imagine, un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, ils étaient toujours pas encore recherchés. On sait pas trop encore pour l'instant où ça en est avec la France, mais a priori, s'ils sont retrouvés, ils risquent d'être rapatriés FISA en France.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place. Je dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Avertissement, attenzione. Tandu, Erlen.
Achtung, Reisewarnung.
Warning.
Dikat, Seyat, Oyarese. Attention.
Du lundi 13 au dimanche 26 octobre 2014, l'Union européenne va mettre en place une très grosse opération policière nommée Mos Maiorum visant les sans-papiers. Pendant 2 semaines, 18 000 policiers vont pourchasser les personnes sans-papiers pour en arrêter le plus possible. Les contrôles auront lieu dans la rue, les trains, les gares, les aéroports, les autoroutes et aux frontières internes européennes partout en Europe.
Les objectifs sont d'arrêter un maximum de personnes, d'identifier les routes et moyens utilisés pour venir, et ainsi empêcher les migrants et migrantes d'arriver en Europe. Prévenez dès à présent toutes les personnes que vous connaissez, résidant ou en transit en Europe, ou qui prévoient de venir à cette période. Soyons solidaires en essayant d'empêcher la mise en place des contrôles si on en est témoin, soit en les rendant visibles par des protestations, soit en avertissant discrètement les personnes en amont du dispositif et en les aidant à y échapper. Montrer sa désapprobation lorsqu'on assiste à l'opération, ne serait-ce qu'en s'arrêtant et regardant, peut gêner le contrôle. Faisons le maximum pour que cette opération soit un échec. Soyons solidaires de toutes celles et ceux que ces États veulent empêcher de circuler librement.
13-26 Ekim tarihleri arasında tüm Avrupa Birliği'nde polis tarafından Mos Maiorum adlı bir operasyon gerçekleştirilecektir. Bu iki hafta boyunca 18 bin polis Frontex ile yakın işbirliği içinde oturum izni olmayan yabancıları avlamakla görevlendirilmiştir. Amaçları göçlülerimizi ortaya çıkarıp aramızdan olabildiğince fazla kişiyi tutuklamaktır. Lütfen evrakları olmayan herkesi uyarın. Özellikle trenlerde, istasyonlarda, havalimanlarında, otobanlarla ve Avrupa içindeki gümrük kapılarında yoğun kontroller beklenmektedir. Avrupa kalesine karşı el ele. Hiçbir insan kanun dişi değildir.
انطلاقا من يوم الاثنين 13 أكتوبر وإلى غاية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 يقوم الاتحاد الأوروبي بعملية بوليسية ضخمة اسمها موس مايوروم تستهدف المهاجرين الغير شرعيين. خلال هذين الأسبوعين سيطارد 18 ألف بوليسي المهاجرين الغير شرعيين بغاية توقيف أكبر عدد منهم في الشوارع والقطارات والمحطات والمطارات والطرق السيارة وعلى الحدود الأوروبية الداخلية والخارجية. غايتهم الوحيدة إيقاف أكبر عدد من المهاجرين وكشف سبل عبورهم لمنعهم من المجيء إلى أوروبا. يجب علينا فتح هذه العملية بإعلام كل من يعنيه الأمر من مهاجرين وعابرين من الآن. لنتضامن بمحاولة منع المراقبة بالإعلام أو بتحذير الأشخاص المستهدفين قبل ابتداء العملية وبمساعدتهم على تفادي التوقيف. لنحاول إفشال هذه العملية بما أمكننا. لنكن متضامنين مع كل من تحاول هذه الدول حرمانه من حرية التنقل والحياة. لا للحدود، لا للدول، لا للطرد.
Europa, operación policial en larga escala contra inmigrantes. Atención. Una operación policial establecida por la Unión Europea denominada Mos Maiorum. Terra lugar de 13 de octubre de 2014, segunda feira, a 26 de octubre de 2014, domingo. Durante esas dos semanas, 18.000 policías andaron a casa de las personas sin papeles. Queremos saber los caminos y las rutas de inmigración, além de detectar la mayor cantidad de personas posible. Adviertan todas los sin papeles. Los controles tendrán lugar en los trenes, estaciones, autoestradas, aeropuertos y en las fronteras internas europeas. Contra Fortaleza Europa, ningún ilegal.
Vom 13. bis 26. Oktober findet in der gesamten EU eine Polizeioperation unter dem Namen Mos Maiorum statt. In diesen zwei Wochen werden etwa 18.000 Polizisten in enger Zusammenarbeit mit Frontex auf Jagd nach Menschen ohne Aufenthaltsstatus gehen. Sie wollen die Migrationswege herausfinden und möglichst viele Flüchtlinge festnehmen. Warnt bitte alle Menschen ohne Papiere, vor allem in Zügen, auf Bahnhöfen, am Flughafen, auf Autobahnen und an innereuropäischen Grenzen sind vermehrt Kontrollen zu erwarten. Gegen die Festung Europa. Kein Mensch ist illegal.
Alors on va parler de Calais dans il faut que ça sache. Un port étanche, donc flux migratoire, afflux de migrants, étanchéité des frontières. Où est-ce que je vais en venir ? Le langage officiel concernant les migrations emprunte volontiers au liquide. Il y a donc un afflux de migrants à Calais. Il faut donc maîtriser les flux et renforcer l'étanchéité du port. un porc étanche, étanche, c'est absurde.
Ouais.
Merci bien, mais une fois que c'est dit, ben, faut regarder la réalité des 2000 personnes qui tentent de passer en Angleterre actuellement à Calais. Donc c'est bien beau tous ces discours, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc de violents affrontements ont de nouveau eu lieu aujourd'hui entre les forces de l'ordre et des centaines de migrants qui tentaient, comme depuis le début de la semaine et depuis le début du mois de septembre, de créer des bouchons sur l'autoroute menant au port afin de monter dans les poids lourds à destination du Royaume-Uni. Les migrants, saturés d'attendre à Calais, font le forcing et montent en nombre dans les camions. Plusieurs dizaines de migrants ont été légèrement blessés. Et pas que légèrement, je crois. Bref, une quarantaine de CRS venus en renfort des policiers de Calais se sont efforcés d'empêcher les migrants, en majorité des Éthiopiens et des Érythréens, de monter à bord des camions en faisant usage de gaz lacrymogène et de tonfa, de tout ce qui... toutes les armes des policiers. Et selon la Voix du Nord, certains avaient réussi à s'introduire dans les véhicules et ça a généré quelques échanges de coups avec des chauffeurs. Donc depuis lundi, ces bouchons se répètent et les migrants tentent de passer et la police les réprime. Le même scénario tous les jours. Et il y a là, en ce moment, entre 1500 et 2500 personnes migrantes à Calais. Et donc le climat de tension est extrême et se traduit également par des bagarres entre les migrants issus de différents pays. Il faut dire que ils habitent dans des logements de fortune. Il y a un grand squat dans Calais, mais la plupart habitent sur des camps aux alentours, dans le quartier des Dunes. Une jeune Éthiopienne âgée de 16 ans est morte dans la nuit de lundi à mardi, fauchée par une voiture en traversant l'autoroute. Parce qu'il y a ces sortes de bouchons un peu spectaculaires en journée, mais bien sûr aussi que la nuit, les gens essayent de passer. Et donc, elle s'est fait faucher par une voiture sur l'autoroute. Et ce dont on parle beaucoup ces derniers jours, c'est des bagarres qui ont eu lieu. Donc, il y a eu trois bagarres, dont deux lundi soir et une dans la nuit de mardi, amenant suffisamment musclés pour que les CRS s'interposent en faisant usage de gaz lacrymogène. Et un migrant a été arrêté à cette occasion, soi-disant qu'il était armé d'un bâton et qu'il se montrait menaçant face aux policiers. La journée de mardi et la nuit, donc pas mal d'affrontements entre migrants. Et le sous-préfet de Calais, Denis Gaudis, il n'est pas futé, lui, parle de sujets futiles qui opposent les migrants. Donc toutes ces bagarres...
De son salon cossu.
Voilà. Toutes ces bagarres seraient liées à des sujets futiles. Donc manière extrême d'infantiliser les migrants. Et pourquoi des bagarres ? C'est parce qu'ils tentent tous les jours de passer, parce qu'ils ont sommeil, parce qu'ils habitent des abris de fortune, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils se font tabasser par les flics, parce que c'est la merde, et l'autre qui continue dans son petit, effectivement, sofa, à parler de futilité. Donc peut-être ce Denis Gaudis, il pourrait leur filer sa maison, puis lui, il irait dormir sur les dunes, et puis il parlerait de futilité ensuite, quand un commerçant refuserait de qu'il s'assoie en terrasse pour boire un café le matin après avoir dormi dehors. Donc voilà, Calais en ce moment, ça continue bien à être la merde et ça continue aussi à légitimer tous les discours de droite et d'extrême droite, puisqu'ils disent, vous voyez, regardez, les migrants, ils sont agressifs vis-à-vis des camionneurs, vis-à-vis de la population, et donc ça donne une légitimité grandissante pour les réprimer, les envoyer en centre de rétention.
Il faut que ça se sache.
Eh ben, on a fini pour ce Canu Info, il ne reste plus que l'agenda.
Ah oui, un petit agenda. Donc, comme depuis trois semaines maintenant, il y a une manifestation en soutien à Kobané, puisque la résistance continue. Donc ça va se passer samedi 25 octobre à 15h, place Bellecour, comme d'habitude.
Si je pouvais préciser...
C'est à 15h ou c'est à 22h ? Moi j'ai eu l'info aujourd'hui que c'était décalé à 22h.
Ah bon ?
Eh ben, c'est 15h.
C'est soit 15h, soit 22h.
Ou c'est les deux.
Tenez-vous au courant sur Rébellion.
Ouais, moi je trouve...
En tout cas, sur Rébellion, c'est marqué 15h, pour le moment.
En tout cas, c'est sympa, les Américains ont largué des armes pour soutenir la résistance de Kobané. Bon, manque de peau, c'est tombé chez l'EI, mais...
Ah, vraiment manque de peau.
Ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Erdogan qui dit ça? Parce qu'en vrai, c'est tombé chez les Kurdes et que Erdogan a quand même vraiment du mal à accepter que les Kurdes touchent des armes.
Non, c'est vrai.
Et sinon, le petit truc d'agenda que j'ai trouvé sur Rébellion, c'est... Il y a une ZAD au Testet, donc le barrage de Sivens, enracine la résistance. Donc la zone à défendre du Testet fête son premier anniversaire et ils vont faire un grand rassemblement suivi d'une semaine de mobilisation. Et donc c'est ce 25 octobre à midi. Au programme construction, plantation, atelier, débat, concert. Et pour avoir plus d'infos, c'est sûr, tant qu'il y aura des bouilles, tout attaché au pluriel, bouilles.wordpress.com. Et le contact, si vous voulez leur écrire, c'est testé, ça c'est facile, 25 octobre, tout attaché, @riseup.net. Et t'as pas une petite météo à part pour dire qu'il fait froid?
Non, ouais, c'est le grand retour du froid. C'est tout le météo express.
Comme l'a annoncé le préfet.
Ouais, exactement. Et ben, on a fini ce Canu Info.
Eh ben ouais, ben, il vous reste 12 minutes à glandouiller avec de la musique avant de pouvoir avoir la joie d'écouter Idées Noires.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.